Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Nicole Fallien. Je suis née à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, le 11 janvier 1938. Et je suis chanteuse, musicienne, pianiste. Et j'enseigne le travail de la voix.
Bonjour Nicole Fallien.
Bonjour.
Et merci beaucoup de nous recevoir chez vous, à Paris. Votre longue carrière raconte une vie de chant, une vie de star aussi. Inlassablement, vos oreilles et votre cœur écoutent le monde. Vous êtes une sorte de magicienne et votre super pouvoir, c'est d'entendre notamment où la voix passe chez l'autre. Vous lisez en fait à livre ouvert dans la voix des autres. Dans la voix parlée se trouve peut-être déjà la possibilité de la voix chantée, parce que le chant parle aussi. Alors, chère Nicole Fallien, comme vous êtes ici chez vous, vous êtes près de votre piano, eh bien je vous propose peut-être de commencer d'une façon peu commune pour les grands entretiens de France Musique. Mais voilà, vous m'avez entendu parler, n'est-ce pas ? C'est notre première rencontre. On pourrait imaginer que j'arrive chez vous pour avoir un conseil. Et qu'est-ce que vous pourriez dire de ma voix ? Une sorte de cas pratique pour ouvrir notre rencontre.
D'accord. Alors, je ne vais pas vous dire ce que je pense de votre voix, je vais vous dire ce que j'entends. C'est quand même mieux ça, hein ? Voilà. Alors, vous parlez. Déjà, quand vous dormez, vous ne pensez pas à respirer. Non. Donc je ne vois pas pour quelle raison, quand on parle, on respire. Puisque c'est la pensée qui vous fait parler. C'est donc la pensée qui respire. Vous ne m'avez pas entendu faire... Alors vous savez, mais pas entendu faire ça. Non. Donc on ne fait jamais ça. Ou pour parler, ou pour chanter. Ça c'est une première chose. Ensuite... Quand il y a une respiration active comme ça, il y a un blocage quelque part, et on a toujours envie de se faire entendre, et le résonateur le plus puissant de la face, c'est le nez. Donc vous me parlez comme ça, pour bien que je vous entende, voilà. Donc vous mangez la moitié de votre timbre, et vous vous fatiguez, les oreilles, le cerveau, parce que vous n'êtes pas en ouverture. Comme je respire en faisant du bruit, et je parle comme ça, donc vous êtes déjà dans deux fermetures.
Et tout ça, vous l'entendez...
À tout de suite, quand on me dit bonjour, en arrivant.
Et il y a une proportionnalité, j'allais dire, est-ce qu'il y a plus de gens mal placés que de gens bien placés?
Ah oui, beaucoup plus de gens. Oui, oui, parce que la plupart des gens compensent leurs difficultés, ont besoin de s'affirmer, de se faire entendre, de se faire engager, de se faire... Donc il y a toujours...
Il y a quelque chose qui est en force.
Voilà, tout de suite, au lieu d'être en ouverture... C'est-à-dire regarder les gens, leur dire bonjour, les écouter parler et essayer de raconter son histoire sans être obligé de faire un effort pour se faire comprendre ou se faire entendre.
Et qu'on ait pris des cours de chant ou pas pris
ou
de cours de chant.
M'arrive chez mes commerçants de leur dire, vous devriez ouvrir un peu tout ça, vous parlez très mal et vous vous fatiguez. Alors je suis plus ou moins reçue, mais je le dis quand même.
Et est-ce qu'il suffit d'une prise de conscience ou il faut un travail ?
Ah ben, il faut d'abord une prise de conscience. Il faut d'abord que j'explique justement ce que je viens de vous dire. Voilà, tout est naturel. Écoutez un enfant. Un enfant ne parlera jamais fermé comme ça, jamais. Il dira, tu es là, toi? Oh, ok. Voilà, il est ouvert, l'enfant. Oui. Parce qu'il découvre le monde, il vous découvre, vous. Eh bien, on devrait toujours être comme les enfants.
Mais d'ailleurs, l'enfant chante.
Bien sûr, naturellement. On ne lui apprend pas à chanter.
Et ça, cette voix d'enfant, d'aller la récupérer, la retrouver, c'est quoi? C'est une forme de paradis perdu?
Ah, c'est pas du tout, on va la retrouver. Il y a des exercices très très précis, et il faut être conscient de ça tout le temps, toute la journée, dès qu'on se lève. Savoir où est la voix, et parler comme ça, simplement. Ça sonne tout seul, voilà. Et on n'a rien à prouver, on n'a pas à forcer. Si on force, on ne vous entend pas, de toute façon. Il suffit d'être là, content d'être là, heureux d'être là et heureux de dire quelque chose. D'aller vers l'autre, de le convaincre, mais pas en forçant, de le convaincre avec son regard, sa pensée, son comportement physique. On est aussi un peu tordu physiquement. Il faut aussi apprendre à avoir un corps bien placé, bien posé. Regardez un enfant quand il commence à marcher. Il est sur un pied, sur l'autre, puis pouf, il est parti. Il est installé. On ne lui a pas appris. C'est la difficulté de la vie qui fait que on fabrique tout le temps et on se protège. Mmh. On a un sentiment, mais on se fait du mal en même temps. Ah, mais ça, c'est un grand parcours.
Comme ça dans le temps, hein. Vous nous avez dit être né dans le Pas-de-Calais en 1938. Les premiers souvenirs que vous avez, ce sont lesquels? Vous êtes
alors j'ai c'est un souvenir d'enfant très lointain. Nous habitions à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, le pays des femmes au chapeau vert. Et mes parents un soir recevaient des amis. Et parmi ses amis, il y avait un musicien, un aveugle, qui était organiste. Parce que maman adorait la musique, donc elle s'arrangeait pour qu'on ait toujours des musiciens un petit peu à notre table. Moi, j'avais quel âge? J'avais 4 ans, quelque chose comme ça. Et au dessert, maman me dit, tiens, va nous jouer un petit truc avec tes petits doigts, choses comme ça. Et je me suis mis à tapoter au piano, puis à fredonner, comme ça. J'étais contente d'être à mon piano et de... Voilà, et puis le dîner s'est passé, et à la fin du dîner, ce monsieur est allé voir maman, et il m'a dit, vous devriez faire de la musique à votre fille. Elle a un don. Elle a une oreille, quand elle chante juste. Elle met ses petits doigts, mais regardez, elle fait pas n'importe quoi, vous devriez. Bon. Maman, qui adorait chanter naturellement et tout ça, elle m'a mise au conservatoire de Saint-Omer. J'avais donc 5 ans, j'ai commencé là. Et nous sommes restés là-bas jusqu'à 3 ans à peu près. Après, nous sommes partis à Rouen, et je suis rentrée au conservatoire de Rouen, où j'ai fait toutes mes études là-bas. Mais surtout des études de piano. J'étais jusqu'à mon premier prix, j'ai eu mon premier prix, j'avais 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Et donc, pour moi, c'était ma vie, c'était être concertiste, quoi. Parce que j'apprenais très vite. En sortant de l'école, j'étais au piano. Les samedis, dimanches, j'étais au piano. J'étais tout le temps au piano.
Mais dès toute petite?
Toute petite.
C'est-à-dire, quand vous vous souvenez de ses premiers souvenirs, même époque Saint-Omer, le piano, il est tout de suite devenu quoi? Un camarade de jeu, un confident, quoi?
Tout à fait. D'ailleurs, maman, elle nous avait acheté un piano. On avait un piano.
Quand vous dites nous, c'est que vous aviez des frères et sœurs?
Mon frère, qui n'est plus de ce monde, mais mon frère était...
Un frère aîné?
Un frère aîné. Je dirais encore aussi doué que ma maman, parce que le don était ma maman. Elle chantait comme un rossignol. Et alors, vous pouviez lui mettre n'importe quel instrument dans les mains, le jouer. Que ce soit de la mandoline, du violon, de l'orgue.
Et elle était d'une famille de musiciens?
Pas du tout. Elle est née comme ça, comme moi, douée. Le don, je pense que c'est à la naissance. Alors, on pourrait faire réfléchir d'où ça vient. Moi, je sais que ça vient de maman. Et mon frère était pareil.
Donc, il était très doué aussi.
Très doué. On a passé notre jeunesse à faire de la musique. On ne savait pas le dimanche sortir, aller au cinéma. Ah non, on restait à la maison et on faisait moi du piano, lui du violon, la clarinette, maman chantait, tout ça.
Et votre père ?
Et papa, assis dans son fauteuil, aimant la musique, c'était un grand chef cuisinier. Donc un personnage de talent pour faire de la bonne cuisine. Une belle sensibilité. Il était là. Bon, alors, vous nous chantez, vous nous jouez quoi ? C'était l'après-midi à la maison, dans le salon. C'était merveilleux. J'ai des souvenirs merveilleux de ça.
J'ai retrouvé deux fauteuils verts dans mon grenier, tout dégoûtant. C'est le fauteuil de mon grand-père et le fauteuil de grand-maman. L'un est usé jusqu'à la corde, souvent l'ont dormi dans ses bras. Il est lourd de la sueur qu'il porte, c'est le fauteuil de grand-papa. L'autre presque neuf n'a si de là que quelques taches d'argent sur le dossier et sur les bras. Grand-mère y a pleuré dedans.
Et cette petite enfance, elle se déroule quand même. Vous êtes née en 38, c'est quand même la guerre.
La guerre. Et papa est parti, il a été prisonnier des Allemands pendant 5 ans. Donc on a été élevé par maman, en somme, tout petit comme ça. Et ouais. Après, donc on s'est réfugié dans ma campagne, dans la Somme, où il y avait mes deux grands-mères et maman, mon frère et moi. D'accord. Puisque on n'avait plus d'hommes, on est resté là-bas.
Parce qu'il y a eu par exemple le grand bombardement de la rue d'Arras en 43.
Mais oui.
Vous étiez dans la Somme ou vous étiez à Saint-Omer?
Alors oui, j'étais dans la. C'était encore papa, il est rentré. Oui, 44, 45. On était là-bas.
Ouais, vous étiez encore.
C'est
là-bas.
Après que nous sommes allés à Rouen.
Donc vous avez souvenir dans cette petite enfance, d'une enfance quand même, j'imagine, à la fois portée par cette mère qui a l'air d'être un personnage généreux, assez
incroyable,
extraordinaire.
Incroyable, oui. Pendant la guerre, tous les hommes étaient partis à la guerre. Nous, il n'y avait plus que des femmes dans le pays. Elles s'arrangeaient tous les samedis soirs pour faire des spectacles. Alors, il y avait une grange énorme, elle avait monté des balles de paille et elle faisait un spectacle en picard. Macho quinquin, macho pochin, macro rogin, tu me frottes du chagrin si tu ne dors poche qu'un demain. Elle nous chantait ça. Elle disait des textes en picard et tout. Et après, elle passait avec sa casquette, elle ramassait l'argent. Elle a rempli 4 carnets de caisses d'épargne pour les prisonniers quand ils sont rentrés. C'est une belle histoire, ça, non?
Ah ouais, c'est magnifique.
Hein ouais. Et ça m'a toujours suivi. Je me disais, je veux faire ça, quoi.
Ouais. Donc cette culture picarde, alors, vous l'avez?
Oui. Ah oui, complètement.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette culture? Il y a la langue, mais il y a aussi des plats.
Évidemment, la campagne. Mais c'est loin, j'étais petite. J'ai quand même été petite, et après nous avons gardé cette maison, dont je viens de me séparer malheureusement, puisque je viens de perdre mon fils. Ça, c'est mon drame. Donc je m'en suis séparée la semaine dernière, c'est tout récent, voyez-vous. Je l'ai vendu, je n'irai plus là-bas. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse triste qu'il faut assumer. Mais toute ma petite enfance était là-bas. Et ensuite, nous sommes allés à Rouen.
Et alors là, à Rouen, vous arrivez comme ça, sans
alors,
attache?
Pas du tout. Ma maman, elle s'est mise à faire des études d'infirmière. Et elle a réussi à rentrer dans un lycée comme infirmière. À l'époque, on était logés dans ce lycée. Et elle était infirmière. Et papa a cherché un poste de cuisinier. Donc voilà, on est resté là, on était très heureux.
Et c'était comment Rouen après-guerre alors?
Oh, c'est malgré cette guerre, ça a toujours été une très très belle ville. La cathédrale, Saint-Ouen, tout, enfin, les quais de Seine,
Les lumières, c'est
toujours une très très belle ville, très belle ville Rouen. Puis agréable, facile à y vivre. Ouais, toute ma famille est là-bas, j'ai des neveux là-bas. Donc c'est mon attache maintenant là-bas.
Dorme un petit quinquin, un petit pochin, un gros rogin. te me feras du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Ainsi l'autre jour, un pauvre dentelière, un ami clotant Saint-Tigarchon, qui depuis trop quart d'heure fait joke de brère, tâche de l'endormir par une canchon. Allez, dis-je, ma narcisse, demain t'auras du pain d'épices, du chucagogo, si t'es sache et te fais dodo. Dors, mon petit quinquin, mon petit pochin, ma gros rejeun. T'en feras du chagrin si t'en dors point jusqu'à demain.
France Musique, les grands entretiens de Nicole Fallien.
Pour faire de la musique, pour être musicien, il faut être courageux. C'est la première qualité, hein. J'ai travaillé énormément.
Courageux dans le travail.
Dans le travail, j'ai sacrifié ma jeunesse. Moi, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir joué à la poupée, joué au vélo. On me disait, fais ton piano. Des heures et des heures et des heures.
Mais vous y trouviez du plaisir?
Ah, mais complètement. Je me passais très bien de ma poupée. Ça m'allait très bien. C'était mon jouet. C'était ma raison de vivre. Enfin, j'étais tout le temps sur mon piano.
Et qu'est-ce que vous aimiez dans le piano?
Je trouve que le piano, c'est formidable parce qu'on a le chant à la main droite, puis on a l'accompagnement à la main gauche. Donc c'est complet. C'est complet. Si je vous fais ça, regardez. J'ai sol fa sol si sol ré si do la mi, puis là j'ai plom 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 plom. Donc on a tout de suite quelque chose de construit. Donc on peut faire ça, on peut faire tout ce qu'on veut comme musique. Donc j'inventais des choses, et puis mon frère en faisait des quatre mains. Lui non plus, il n'a pas pris de piano. Lui, il n'avait jamais pris de cours de piano, mais il jouait. Oui, on a une chance, on a un don hein, quand même au départ. Voilà.
Et est-ce qu'il y avait aussi de la chanson? Parce que là, j'ai l'impression
que... avec mon frère, on chantait. Quand j'étais au conservatoire en classe de chant. Alors avant de rentrer, ça a été le drame un petit peu de la vie, cette chose, de ma vie. C'est que quand je suis arrivée au conservatoire de Rouen, donc j'avais, je ne sais plus, 16 ans, 17, 16 ans.
Oui, une fois que vous avez votre prix.
Voilà, une fois que j'ai eu mon prix de piano, mon directeur me dit « Oh, écoute, Nicole, tu vas avoir un problème parce que j'ai réalisé que tu faisais difficilement l'octave avec tes petites mains. » Ce qui est le cas, regardez. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, tu as joué des œuvres où ça ne demandait pas des neuvièmes, des dixièmes. Mais tu ne pourras pas tout jouer, donc tu ne peux pas être une concertiste.
Et c'était votre rêve, vous, d'être concertiste?
Mais évidemment, moi, je voulais pas, j'étais pas chanteuse. Je n'avais jamais pensé que je chanterais dans ma vie. Je chantais pour m'amuser avec mon frère et ma mère, mais mon instrument, c'était... Vous vous rendez compte, j'y étais depuis l'âge de 4 ans.
Oui. Donc vous vous étiez projetée, vous, dans la vie d'une pianiste.
Complètement. Moi, je me préparais à Paris.
Ouais.
Et il m'a dit ça avant de préparer Paris. Il m'a dit, mais je t'aime trop pour que tu sacrifies ta vie. Vous avez vu les petites mains que j'ai? Je me gante enfant de 10 ans. Je vais chez les enfants pour avoir des gants.
Oui.
Et pourtant, j'ai quand même eu mon prix de piano comme ça. Hein
bon. Oui.
Mais j'avais choisi les œuvres. Voilà. Je m'étais bien gardée de faire des... taper à côté.
Une liste.
Voilà. Donc, ça a été dramatique parce que je suis tombée malade. Mais dans le bon sens du terme. Pas malade vraiment. Mais à cet âge-là, j'étais ronde. J'étais une belle plante. Et tous les mois, je perdais un kilo. Un kilo, pas plus. Tous les mois.
De tristesse?
Je ne sais pas, je perdais un kilo. Donc maman me disait, bon, tu es contrariée, ça ne fait rien, tu vas être plus fine, tu seras plus jolie, etc., etc. 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos. Maman commence à s'inquiéter sérieusement. J'étais toujours bien, mais enfin 6 kilos, ça commençait. Donc elle m'a emmenée chez les médecins, on a vu je ne sais combien de médecins. Qui trouvaient tous que j'étais une belle plante, que j'allais bien, que j'étais contrariée de ne pas faire de mon métier le piano. Donc, il fallait voir un psychiatre. Donc, ça, maman n'a pas voulu. Elle a continué à voir les médecins. Et puis, le dernier que j'ai vu, il me dit, oui, c'est vrai, vous êtes en pleine forme, mais il y a quelque chose qui vous contrarie quand même, ça ne va pas dans la vie. Alors, je dis, ça ne va pas du tout. On m'a dit que je ne serais pas concertiste pianiste. Il me dit, mais c'est pas grave, vous pouvez faire de la flûte, vous pouvez faire... Ah, je dis, non, moi, je veux faire du piano, j'en fais depuis l'âge de 4 ans. Ah, mais il me dit, mais cherchez pas. cherchez pas. Trouvez une chose, faites autre chose en musique, et vous allez retrouver vos kilos. Ne prenez aucun médicament, ce qui a été le cas. Donc, mon directeur me dit, mais écoute, quand on fait de l'harmonie, quand on chante, qu'on découvre des partitions, t'as un joli timbre, t'as un beau timbre, pourquoi tu chanterais pas? Et à l'époque, si vous voulez, moi, mon dada, c'était Callas, parce que je trouvais qu'elle était une actrice qui faisait de la musique et qui chantait.
Vous l'avez vue sur scène?
Moi, je l'ai vue à l'Opéra Garnier. J'étais toute jeune. Mes parents m'avaient emmenée. J'avais dit, ah, si on chante, il faut chanter comme ça, mais pas autrement.
Donc vos parents, ils allaient à Paris pour écouter des concerts?
Rien ne m'était refusé. Rien ne m'était refusé, parce qu'ils sentaient le don que j'avais, donc ils se saignaient.
Et ça, c'est une responsabilité après?
Ah ben oui, alors...
Pour vous, je veux dire.
Ben, n'en parlez pas. Conservatoire, je rentre dans une classe et j'ai un prof qui commence à me faire chanter des trucs bizarres, très graves, très... Alors, moi je sentais bien que ça n'allait pas dans ma gorge, quoi. Je forçais, elle me dit, vous rendez compte, j'ai pas de mezzo dans ma classe, c'est formidable, vous êtes une voix grave. Alors je m'entends lui répondre, mais madame, vous savez que mon frère, on chante beaucoup Piaf. Non, rien de rien, j'appuie sur la poitrine et tout ça. J'ai dit, c'est ça que vous entendez, mais avec maman, je fais des aigus. Oh non, vous n'êtes pas du tout une soprane. Non. Bon, tout doucement, je commence à avoir des vraies difficultés avec la voix, parce que tout était fabriqué. Il fallait absolument que je sorte ces sons-là.
C'était quoi l'emploi du temps? Je veux dire, quand on est en chant au conservatoire, vous avez passé votre
avait
deux, piano
oui, vous on êtes... avait deux après-midi par semaine.
Deux après-midi par semaine.
Alors, on n'était pas obligé d'y rester 3-4 heures, mais on avait deux cours par semaine.
Et il y avait aussi toutes les autres disciplines? Vous avez aussi fait harmonie, écriture?
J'ai jamais lâché la musique. J'ai fait de l'écriture, de l'harmonie, toujours avec mon Albert Bocan, mon directeur du conservatoire, qui avait trois enfants, il n'y en avait pas un qui était musicien. Donc il m'avait adopté. J'allais chez lui, j'étais tout le temps chez lui en somme.
Et son père était l'organiste de la cathédrale de Rouen, Henri Bocan.
Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, je me suis mise à... Il me dit, allez, va faire les messes au dimanche. Alors là, j'étais au paradis parce que... Ça sortait tout seul, j'étais contente. J'arrivais en classe de chant, où je chantais Carmen. J'y arrivais pas, quoi.
Et à un moment, vous sentez qu'en fait...
J'étais en train de détruire ma voix.
Le pillé Yezou, il sortait moins bien.
C'était plus possible. Ouais. Ça, c'était plus possible, je ne pouvais plus. J'avais plus de souplesse, j'avais plus de liberté. Je respirais comme une pompe aspirante. Enfin, il n'y avait rien qui était... Qu'avant, tout était naturel. Tout était naturel chez moi.
Vous étiez assez autonome, j'ai l'impression, en fait, dans le travail, etc.
Ah oui.
C'est ça aussi que ça veut dire.
Et là, j'ai un professeur de piano qui m'a vraiment donné une bonne technique, qui n'était pas très humain. J'ai gardé un souvenir. Le jour de ma communion, il m'avait réservé un cours. Maman lui a dit quand même, c'est sa communion. Il a répondu à maman, ben vous me paierez le cours quand même, hein, mais pas prévenu. Donc ça a été dans ma tête, un volet qui s'est ouvert. Il m'a dit, jamais je ne ferai ça. Humainement, c'est pas possible.
Ce qui m'intéresse aussi de savoir, Nicole Fallien, c'est est-ce que vous avez trouvé dans le chant le plaisir que vous aviez dans le piano? Parce que c'était quand même un deuxième choix.
Voilà. Alors, j'avais déjà le plaisir avec mon frère, puisqu'on chantait Piaf, on chantait tous les chanteurs possibles. J'étais une fan de Piaf, de toute façon. Elle chantait que ses tripes, elle chantait vrai. Donc moi, je me donnais à fond avec ça.
Tant qu'il y aura des jours, on se dira je t'aime, et les serments d'amour seront toujours les mêmes. Car pour parler d'amour, s'il n'y a pas de problème, on redira toujours, oh mon amour, je t'aime.
C'est sur cette chanson d'Édith Piaf, « Tant qu'il y aura des jours », que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Nicole Fallien. Une série proposée par Judith Chen, réalisée par Françoise Cordet, est d'ores et déjà disponible en podcast dans son intégralité sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.